et le générique. Bonsoir à toutes et à tous, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Ce soir, le voile, une passion française. Le voile, une matière hautement inflammable. Il aura suffi d'un reportage diffusé sur M6 et de l'interview d'une responsable locale du syndicat étudiant UNEF pour que soit relancée une énième polémique autour du voile. Car la responsable en question, Mariam Pouchetou de l'Université Paris 4, apparaît voilée à la télévision. Il suffisait d'allumer la mèche, ce qu'a fait l'organisation Le Printemps Républicain, pour que l'affaire s'embrase. Pas d'interview politique sans que l'interviewé ne soit invité à réagir sur le sujet quand il ne l'avait pas déjà fait spontanément. Alors, deux dimensions sont convoquées dans le cadre de cette affaire. D'abord, la question de l'expression religieuse, expression visuelle en l'occurrence, dans le cadre de la laïcité, devenue d'autant plus problématique dans le débat public qu'elle est le fait de musulmans. Ensuite, la question de l'émancipation des femmes, une des valeurs portées par l'UNEF, laquelle serait bafouée par le port du voile. Des questions qui n'ont rien de nouveau et qui, malgré des années de débat, se heurtent à des incompréhensions mutuelles et réciproques. Alors le voile, une passion française. C'est le sujet dont nous allons discuter ce soir avec deux des membres de notre club. Aude Lancelin, bonsoir. Vous êtes journaliste pour Le 1, pour là-bas, Si j'y suis, et pour Le Média, sur lequel vous animez une émission hebdomadaire.
J'anime trois émissions.
Oh là là, trois émissions hebdomadaires. Presque autant
que moi. Non, pas hebdomadaire. Ah, deux mensuelles et une hebdomadaire.
Anastasia Colosimo. Je ne sais pas ce que vous animez. En tout cas, vous nous donnez des cours. Bah si, vous animez des cours quand même. Vous êtes politologue et enseignante à Sciences Po. Puis comme chaque semaine, vous le savez, depuis quelques semaines déjà, nous avons un invité ou une invitée du club. En l'occurrence, il s'agit d'une invitée. Laura, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je précise, Laura, que je vais uniquement vous appeler par votre prénom. Ça n'a rien à voir avec une forme de condescendance, mais c'est parce que vous souhaitez uniquement vous exprimer sous votre prénom. Vous êtes militante d'une association, l'association LALAB, dont le but est de faire entendre les voix des femmes musulmanes pour lutter. Alors là, je lis ce qui est écrit sur le site de cette association, pour lutter contre les oppressions racistes et sexistes et contre les préjugés donc, dont font l'objet les femmes de confession musulmane. Alors, pour commencer cette discussion, je voudrais d'abord vous faire entendre quelques-unes des réactions politiques qu'on a pu entendre ces derniers jours suite à cette fameuse affaire du voile à l'UNEF. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est comme ça, en tout cas, voilà, qu'on va en parler ce soir. Et je vous propose d'écouter dans l'ordre les réactions du député de La République En Marche, Aurélien Taché, de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, et du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Le président de la République, il a dit une chose intéressante sur la laïcité. Il a dit que c'était l'État qui était neutre et pas la société. Donc voilà, moi je continue à me mettre dans cette logique-là.
Donc clairement, elle peut porter le voile.
Oui, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Il y a la question de savoir si finalement elle serait suffisamment française ou une bonne française.
Ça m'interpelle
parce que, non pas parce que c'est une étudiante qui porte le voile, c'est son droit le plus strict, mais ça m'interpelle que l'UNEF ait choisi comme porte-parole une personne qui, de toute évidence, à des signes manifestes de religion d'islam politique, en réalité.
C'est un paradoxe.
De promotion de l'islam politique. C'est un paradoxe pour l'UNEF.
C'est comme si, je sais pas, moi, j'arrivais avec une énorme croix. Bon, bah, j'ai connu ça, moi, dans ma jeunesse. Il y en avait qui portaient ça, on leur disait, écoute, c'est bon, quoi. Tu en mets une plus petite, ou en tout cas, quand tu vas parler en notre nom, tu mets pas ça.
Voilà, donc je rappelle, hein, Aurélien Taché, Marlène Schiappa et Jean-Luc Mélenchon. De laquelle de ces trois réactions vous sentez-vous la plus proche, Laura ?
De laquelle je me sens la plus proche, en tout cas, c'est sûr que je ne me sens pas proche des deux dernières déclarations. Je rejoindrai plutôt la première, qui vise à rappeler la liberté de porter ou de ne pas porter des signes religieux. Mariam avait le droit de porter ce voile. Elle a été élue. Elle a été élue par les étudiants pour les représenter. Donc à partir de là, la question ne se pose pas. Moi, je voulais d'abord commencer par vraiment souligner le fait qu'au nom de LALAB, je lui adresse un immense soutien parce qu'on se concentre en premier lieu sur les débats, sur tout ce qui est dit. Mais on ne pense jamais aux conséquences de ces mots, de ces violences. Mariam a subi un cyberharcèlement très violent. Ça a été le cas aussi pour nous à LALAB. Je pense que c'est important de le souligner finalement, que tous ces débats qui sont récurrents, qui reviennent un peu tous les 6 mois, qui se présentent sous des formes différentes, ont des conséquences réelles sur la vie des femmes musulmanes.
Pour vous, cette affaire n'aurait jamais dû exister ?
Totalement, la question ne se pose pas. Voilà, c'est
Ah bah on va voir si la question se pose ou ne se pose pas. Aude Lancelin, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont gêné? Cela dit, je peux vous poser la même question finalement que j'ai posée à Laura, hein, dont je rappelle, hein, je ne vais pas le faire à chaque fois que je vous fais intervenir, mais je vous appelle par votre prénom parce que vous souhaitez vous exprimer uniquement sous votre prénom. Mais je vais vous poser la même question, Aude Lancelin et Anastasia Colosimo, c'est-à-dire parmi les trois réactions que vous avez entendues, est-ce qu'il y en a une qui correspondrait le mieux à ce que vous pensez de cette histoire?
Pas vraiment. Enfin, du moins, il y en a une dont je me sens très éloignée pour le coup. C'est celle de Marlène Schiappa, dont j'ai vu les déclarations sur cette affaire dans la presse, qui va jusqu'à parler de la progression d'un islam politique. Je trouve ça totalement disproportionné et même un peu irresponsable par rapport au fait que constitue le port du voile par une représentante locale de l'UNEF à Paris 4. Voilà, moi, c'est ça qui me, si vous voulez, qui montre, qui justifie le titre de votre émission, le voile passion française, et qu'il suffit qu'une représentante locale porte un voile pour qu'on ait une affaire nationale qui oblige les plus hauts personnages à se prononcer. Maintenant, moi, je tiens à le préciser avant de développer cette histoire plus tard, je trouve ça regrettable qu'une déléguée syndicale exposée dans les médias s'exhibe de cette façon, parce que le résultat, on le paye cash, on ne parle plus que de ça, on ne parle plus du combat étudiant, on a une fois de plus tous les islamophobes du pays, tout parti confondu, qui montent au front, et on perd de vue totalement la lutte. Donc je trouve ça absolument regrettable, et à cet égard je ne suis pas très éloignée de l'intervention récente de l'ancien président de l'UNEF, Bruno Julliard, sur cette affaire.
Donc si vous avez pu être gêné, c'est plus au regard des conséquences prévisibles que ça pouvait avoir que sur le principe même d'avoir une représentante, alors même si c'est une représentante locale, mais enfin c'est quand même une représentante officielle, on va dire, d'un syndicat, et en particulier de celui-ci qui se fait interviewer voilé.
C'est-à-dire que cette jeune femme a été élue. Cette jeune femme, par ailleurs, on n'est plus à l'école. Le port du voile est autorisé à l'université, dans l'espace public. C'est la loi française, donc elle n'est pas hors la loi. Il n'y a aucun titre à cet égard à lui interdire le port du voile. Maintenant, voyez les conséquences. On en reparlera en cours d'émission. Et vraiment, on peut regretter. De la même façon, je le dirais exactement de la même façon si c'était un garçon qui portait une kippa et que ça occultait totalement le combat de son syndicat, je trouve ça regrettable.
Anastasia Colosimo.
Je pense pas que ce soit le rassemblement de tous les islamophobes. Je pense qu'il faut quand même remettre un peu les choses dans leur contexte. Il est important de rappeler quand même que l'UNEF a pendant longtemps, en tout cas dès sa création, été portée par une certaine gauche, qui était une gauche très anti-religieuse, qui d'abord était très anti-religieuse, mais ça concernait l'Église catholique, et qui est restée en fait très anti-religieuse, et qui assimile d'ailleurs toutes les religions. C'est-à-dire que c'est pas l'islam en particulier, c'est aussi le catholicisme, le judaïsme, les religions en général. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un côté très laïque, laïcard à l'UNEF, et en fait ça c'est toute l'ancienne génération de l'UNEF qui, en voyant qu'aujourd'hui l'UNEF pouvait être représentée par une personne non seulement croyante et pratiquante, mais qui en plus osait porter les signes de cette appartenance religieuse dans l'espace public, ont été choqués. Donc je pense que ce que ça révèle, c'est le divorce qu'il y a eu à gauche, qui est un divorce au sein de la gauche qui est encore vivant et qui est intergénérationnel, mais aussi un divorce entre les générations, c'est-à-dire les anciens de l'UNEF et ce qu'est devenu l'UNEF aujourd'hui. Je pense qu'il y a un tas d'anciens de l'UNEF qui sont un peu tombés des nues parce que le fait d'afficher une appartenance religieuse comme ça va à l'encontre un peu des valeurs dont ils pensaient qu'elles étaient les valeurs de l'UNEF.
Et vous, est-ce que vous avez été choqué par ça ou est-ce que vous...
En fait, il peut pas. Enfin, moi, j'ai jamais appartenu à l'UNEF et je suis encore moins de l'ancienne génération de l'UNEF.
Oui, mais même sans y appartenir, le fait.
Moi, j'ai pas du tout été choqué. Elle a tout à fait le droit de porter son voile. Encore une fois, le voile est autorisé à l'université. Elle a été élue. Ce qui est intéressant, et je dirais pas que j'ai été choqué, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça montre qu'il y a eu une évolution à gauche, ou qu'en tout cas, cette question-là, où avant il y avait consensus même sur ce qu'était le féminisme à gauche, aujourd'hui il n'y a plus consensus, ni sur ce qu'est la laïcité, ni sur ce qu'est le féminisme. Et c'est un symptôme de ça en fait, ce scandale. Alors en revanche, moi je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est absolument terrible que ça prenne ces atours-là, c'est absolument terrible qu'il y ait du cyberharcèlement, c'est absolument terrible que ça révèle finalement les pires passions aussi, parce qu'il y a une violence extraordinaire, mais il y a aussi un débat derrière qu'il ne faut pas occulter, je pense.
Laura ?
Alors, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Aude-Lancelin. Sur Mariam qui s'exhiberait avec son voile. Je pense qu'on retourne totalement la question. La question n'est pas elle, ce n'est pas elle qui, en portant le voile, a provoqué un déferlement islamophobe. Ce n'est pas l'UNEF qui d'ailleurs... Enfin, les étudiants ont élu Mariam, donc ils n'ont même pas. Enfin voilà, ils ont décidé de ensemble que ce soit Mariam qui la représente. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le contexte islamophobe généralisé, banalisé depuis ces années, qui normalise, qui fait que. Enfin, tous les 6 mois, des polémiques comme ça reviennent avec un déferlement de violence considérable envers les femmes musulmanes qui sont concernées, mais également les femmes musulmanes dans leur ensemble. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces débats, il faut qu'on prenne en fait la mesure de ce qui renvoie sur l'image de nos sociétés. En fait, vous rendez pas compte de la violence que c'est pour les principales concernées d'assister à ce genre de polémique. Non, le problème ne vient pas de Mariam. Elle a le droit de le porter. Elle a été élue pour ses compétences. Elle représente les étudiants. C'est une femme engagée. Je pense que c'est une chance aujourd'hui qu'une diversité de femmes puisse être aujourd'hui active et qu'elles puissent pratiquer pleinement leur citoyenneté. C'est ce qu'on nous demande. En plus, on a toujours cette injonction, souvent les personnes minorées, à devoir prouver deux fois plus notre appartenance à la République par des pratiques citoyennes. Et quand on le fait, on est pointé du doigt, on est soumis à des mécanismes d'invisibilisation, on est silencié. Donc moi, c'est vraiment cette systématique générale que je veux pointer, et j'ai pas envie qu'on retourne le problème, en fait.
C'est vrai, Aude-Lancelin, qu'en mettant peut-être en avant les conséquences prévisibles que ça pouvait prendre, est-ce que ça ne revient pas aussi à donner raison à ceux qui ont réagi de manière extrêmement vive à la présence de cette jeune femme voilée à la télévision?
Non, mais je comprends tout à fait ce que votre objection, ce que vous dites, parce que moi, si vous voulez, je pense qu'il y a deux fronts, et je voudrais revenir sur ce que disait Laura à l'instant. D'une part, il est incontestable qu'il y a dans ce pays un front islamophobe très puissant, parce qu'il faut quand même revenir sur la généalogie de cette affaire de voile complètement exagérée. C'est une fois de plus des militants du Printemps républicain, Laurent Bouvet, relayés par tout le réseau, Céline Pina, etc., qui ont mis le feu aux poudres.
Alors, je vais juste citer très brièvement, oui, mais les messages et de Laurent Bouvet et de Céline Pina, l'un et l'autre, qui sont membres du Printemps républicain. Laurent Bouvet en est d'ailleurs un des fondateurs. Il poste sur Facebook. Alors, il y a une capture d'écran où on voit cette représentante de l'UNEF qui passe dans le reportage sur M6. Et il y a notamment ce commentaire. À l'UNEF, la convergence des luttes est bien entamée. Bon, ça paraît un message assez inoffensif, même s'il est évidemment plein de sous-entendus. Et les sous-entendus sont levés peu de temps après par l'essayiste Céline Pina, qui voit, elle, la preuve de l'infiltration et du noyautage du syndicalisme étudiant par les frères musulmans. Voilà, je vous laisse poursuivre du coup.
Donc, non, contrairement à vous, Hervé, je pense que le message de Bouvet n'est pas du tout neutre. Il sous-entend qu'il y a...
Enfin, je disais qu'il y avait des sous-entendus, mais il n'est pas très explicite.
Voilà. Mais alors, explicitons-les. Il sous-entend qu'il y a une convergence des luttes entre la gauche, hein, ce qu'il en reste, de gauche vraiment combative, et l'islam politique, et l'islamisme même, puisque notre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est même permis d'aller dire que ce genre d'apparition à l'écran, en faisant référence à cette représentante de l'UNEF, alimentait le transfert des jeunes vers Daesh, etc., ce qui est quand même complètement inouï. Mais donc, il y a d'un côté ce front très actif du Printemps républicain, très dangereux, des gens qui, très franchement, ne nous préparent pas du tout la paix civile, mais au contraire préparent la guerre entre communautés. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus, quand on est de gauche, quand on est attaché à la laïcité, à la condition de la femme, etc., il ne faut pas négliger le fait qu'en effet, dans certains cercles, le Parti des indigènes de la République, par exemple chez les étudiants, gagne un certain terrain. Il ne faut pas se cacher le fait que l'universalisme républicain semble de moins en moins pour certains un outil de lutte efficace contre le racisme, ce qui à mes yeux est un vrai problème, une tragédie même peut-être pour ce pays qui, je le rappelle, compte la plus grosse communauté musulmane et la plus grosse communauté juive d'Europe. Tout ça sur le même terrain avec des agités du bocal islamophobe. Voilà, donc nous sommes dans une situation très dangereuse. C'est pourquoi je ne fais pas partie de cette gauche qui considère que la question du foulard, plus tard appelé voile, est anecdotique et que le voile est simplement un morceau de tissu, que les femmes pourraient se mettre n'importe quoi sur la tête, etc. Ça ne changerait rien pour eux. Ça n'est pas vrai. C'est un symbole religieux. Quand on est dans l'espace public, pour revenir à votre question, Hervé, on s'échange des signes. On est dans le domaine du symbolique. C'est ça la politique. Et donc, en effet, on pourrait penser, oui, ces femmes-là vont s'auto-censurer et ne pas porter le voile pour ne pas nuire à leur cause, mais c'est ça l'espace politique. On ne cesse de s'échanger des signes, donc évidemment que ça compte, évidemment que ça pèse. Évidemment qu'elle-même aurait pu, même si ça n'est pas là, du tout la coupable de cette affaire, mais elle-même aurait pu anticiper ce qui allait se passer.
C'est quoi la symbolique, Laura, qui est portée par le voile lorsqu'une jeune femme, une jeune musulmane le porte, ce voile? Alors, est-ce que c'est à chaque fois une symbolique différente? Est-ce qu'il y en a forcément une derrière? Comment, justement, avec les jeunes femmes de votre association, comment est-ce qu'elles pensent cette question? Comment est-ce qu'elles y répondent?
Alors, moi, ce que je déplore, c'est que ces débats, c'est que la vision générale qu'on fait du foulard, du voile, peu importe comment on l'appelle, finalement homogénéise les femmes musulmanes. Nous, ce qu'on dit à la LAB, c'est qu'on a des centaines de bénévoles qui portent, qui ne portent pas le foulard, qui le portent de manière différente. Il y a autant de raisons de porter le foulard que de femmes qui le portent. Et ça, c'est hyper important. Moi, ce que je remarque dans les débats, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des polémiques qui reviennent tous les 6 mois avec des formes différentes. C'est toujours les mêmes personnes qui s'expriment. Ce n'est jamais les concernés. Et quand les concernés s'expriment, on ne les écoute pas. Et c'est ça le problème. Je pense qu'il faut arrêter en fait de parler à la place des femmes. Chaque femme, qu'elle porte ou non le foulard, et pour les femmes, le portant donne une signification personnelle, donne une signification singulière, et il serait temps de l'accepter.
Y compris une signification qui peut être non religieuse.
Totalement.
Mais y compris une signification qui peut être un signe de... comment dire, de volonté d'émancipation,
c'est-à-dire totalement. Ouais. Et je pense qu'il faut écouter ça. Et je pense qu'aujourd'hui le féminisme majoritaire, celui qu'on entend le plus, a du mal à concevoir que oui, aujourd'hui, il y a des femmes qui utilisent le port du voile, le port du foulard. Alors on peut se sentir proche ou pas de cette idée, mais qu'il utilise comme un outil d'émancipation. Et c'est une réalité, on ne peut pas nier cela si les femmes le disent.
Anastasia Colosimo.
Je suis un peu gênée en fait. je suis un peu gênée par ce que vous dites, parce qu'il me semble que le principe même de l'humanité, par exemple le langage, le fait que vous et moi puissions communiquer, c'est qu'on est d'accord, par exemple, à minima au moins sur le sens des mots. On est d'accord à minima sur un certain nombre de signes. Si tout d'un coup je m'habille par exemple en religieuse, vous aurez tout à fait le droit, et je vous en voudrais pas, de me dire vous êtes une religieuse catholique, disons, donc vous devez croire par exemple en la Trinité. Et ça serait une présomption, c'est-à-dire que c'est possible que par ailleurs j'aille à une soirée déguisée, ou bien que je fasse ça de manière complètement irrationnelle et qu'un jour, un matin, Mais bon, disons que tendanciellement, grossièrement, si je porte un habit religieux, j'adhère à cette religion et je suis croyante de cette religion. Donc je pense que cette idée de dire il y a autant de voiles que de femmes qui en portent. Oui, mais je veux dire, on n'a rien résolu une fois qu'on a dit ça, parce que la réalité, c'est que ça renvoie aussi l'idée que vous appartenez à une... Enfin, d'ailleurs, j'aime pas beaucoup cette idée d'appartenance à une religion. Je pense qu'on rentre et on sort d'une religion. Mais en tout cas, que vous croyez en un certain nombre de choses et que vous avez une certaine conception aussi de la place de la femme et de la place de l'homme.
Mais moi, je vais vous dire... Qui est-ce qu'on doit d'abord écouter ? C'est celui qui perçoit les signes et qui lui donne une certaine définition, ou c'est celui qui les porte et qui peut avoir une toute autre définition ?
Ah non, mais
et quand les définitions ne sont pas, comment dire, équivalentes.
Mais moi, je pense qu'il y a une sorte de malentendu. C'est-à-dire que je pense que les femmes voilées essaient de s'excuser en disant c'est pas comme vous pensez. Moi, j'ai aucun problème, mais aucun problème avec le fait qu'en France, aujourd'hui, il y ait des femmes qui ne soient pas féministes. Enfin, ça me pose aucun problème. Je pense qu'une démocratie libérale, c'est aussi accepter que dans une démocratie libérale, il y a ceux qui sont pour la liberté, il y a des ennemis de la liberté, il y a des féministes, il y a des antiféministes. Et je conçois très bien que des femmes peuvent considérer, et d'ailleurs pas du tout seulement dans l'islam, qu'elles doivent être soumises à l'homme, qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, etc.
Est-ce que vous concevez qu'on puisse porter le voile et se revendiquer féministe en même temps?
Alors, je pense que c'est un peu le loup dans la bergerie. C'est-à-dire que c'est un peu employer les mots de la démocratie pour être sûr d'être protégé par la démocratie. Mais moi, je ne pense pas qu'on ait besoin... Je veux dire que, pourquoi est-ce que vous... Par exemple, c'est une vraie question que je vous pose, Laura. Pourquoi est-ce que vous avez... besoin de dire que vous êtes féministe? Moi, je ne vois pas le problème qui est de dire non, nous, on considère que la femme doit être soumise à l'homme.
Bah peut-être parce qu'elle est féministe, non? Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas répondre à votre place, Laura.
Je trouve ça assez aberrant comme question. Oui, je suis féministe, je porte des valeurs féministes. Je ne me force pas à le dire. C'est comme ça, vous vous déclarez, je ne sais pas, peut-être féministe ou pas. Je vous pose
non,
pas
moi,
les
je
ne
sais pas, je n'ai pas encore décidé.
Voilà, parce que c'est un fait et je ne vais pas me justifier là-dessus.
Mais par exemple, le fait de porter le voile, on sait que théologiquement, c'est quand même le fait de pas trop plaire à l'homme, de cacher un attribut sexuel que sont les cheveux.
Qui vous dit que... Par exemple, moi,
dans d'autres religions, c'est pour ça qu'on porte le voile, c'est pour ça qu'on cache les cheveux, parce que les cheveux, de manière très ancienne, dans les religions monothéistes, c'est associé à la sexualité féminine, et cette sexualité doit être cachée pour ne pas justement attirer trop le regard de l'homme. Donc c'est une forme, quand même, voyez, de soumission. Mais moi, en soi, ça me pose pas de problème. C'est-à-dire que moi, je suis pour qu'il y ait des religieuses, je suis pour qu'il y ait des femmes voilées, voyez. Mais pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé de dire que vous êtes quand même féministe? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ma question.
Alors, on écoute justement la réponse de Laura.
Alors, par où commencer? Alors, je retiens quand même l'association qui est faite entre foulard et soumission. Je vais répéter une dernière fois. Laissons les principales concernées s'exprimer.
Mais du coup, je vous demande.
Oui. Par rapport à moi, personnellement.
Oui, bien sûr. Personnellement.
Je m'exprimerai pas personnellement. Je suis venue ici pour parler.
Mais vous dites que on vous laisse jamais vous exprimer personnellement, et quand on vous demande de vous exprimer personnellement,
moi,
les premières concernées.
Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis représentante de la LAB. Je représente notre position. Je vais pas vous parler personnellement de pourquoi j'ai un foulard sur la tête. En revanche, je déplore l'assimilation que vous faites entre voile et soumission.
Mais non, je fais pas d'assimilation.
C'est ce que vous avez fait. Vous l'avez faite là.
Mais je vous parle pas seulement dans l'islam. Vous voyez, par exemple, dans le judaïsme orthodoxe, fait de se raser les cheveux et de porter une perruque, le fichu aussi que portent encore en Méditerranée certaines femmes âgées. Je veux pas qu'il y ait de confusion sur ce que je dis. C'est pas une attaque, c'est vraiment une demande de clarification. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous continuez à vouloir être féministe alors que la position en soi est assez contradictoire avec le féminisme traditionnel?
On laisse Laura clarifier, ensuite on repassera la parole à Audelancelin.
Je vais diviser ma réponse en deux. Première chose, toutes les femmes ne portent pas le foulard pour se dissimuler du regard de l'homme. Elles y portent diverses significations. Premièrement, arrêtons d'homogénéiser les femmes musulmanes qui portent le foulard. Elles le portent de manière différente. Il y a différents voiles, il y a différentes significations. Deuxièmement, quand bien même une femme qui porte le foulard veut se dissimuler,
Bien sûr. Voilà. Mais moi, je suis pas qu'elle a le droit. Hein.
Voilà.
Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Dans ce cas-là, qu'elle dise pas qu'elle est féministe.
Si elle porte des valeurs féministes,
on n'y arrive pas. Là.
Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, les femmes musulmanes qui portent le foulard subissent des discriminations, des exclusions dans chaque sphère de leur vie, au travail. On leur refuse l'accès à certains loisirs. Moi, je peux vous dire,
en tant qu'aujourd'hui représentante de l'ALAB, déjà en tant qu'association qui défend les droits des femmes musulmanes, rien que pour ça, on nous refuse l'accès à des salles. On a eu des bénévoles qui ont perdu leur travail parce qu'elles étaient engagées dans notre association. On a reçu des campagnes de cyberharcèlement, des menaces de mort. On reçoit tous les jours des témoignages de femmes musulmanes.
C'est terrible, je suis d'accord, oui, c'est absolument
donc
terrible.
Vous ne pouvez pas nous priver de ce combat. Nous
mais
aussi,
je prive personne de rien, je pose une question.
On est confrontés au sexisme, on est confrontés au racisme, on est confrontés à l'islamophobie. On porte ce combat et personne ne peut remettre en question cela.
Aude Lancelin.
Écoutez, moi je tiens à dire que je combats publiquement chaque fois que je le peux les attaques dont sont victimes nos concitoyens musulmans à une fréquence de plus en plus rapprochée et extrême dans l'espace public. Voilà, donc ça j'entends tout à fait ce que vous dites à ce sujet. Mais j'entends aussi ce que vous dites quand vous parlez d'une émancipation féminine par le voile. Donc vous ne voulez pas vous exprimer personnellement sur le sens que l'expression a pour vous. Mais enfin, moi, on est là pour réfléchir ensemble, donc je suis bien obligée de m'interroger. Alors, écoutez, je vais être conduite à des hypothèses, puisque bon, vous ne répondez pas sur ce point, mais c'est vrai que, disons qu'on ne peut... Il est difficile de contester que le fait de cacher les cheveux comme attribut sexuel, etc., dans toutes les religions, a signifié au moins une différence de statut par rapport à l'homme, sinon une infériorité ou une soumission. Très bien. Alors, qu'à partir d'un moment, au niveau générationnel, à partir des années 90 en France, par exemple, puis de plus en plus au cours des années 2000-2010, certaines femmes, dans certains milieux, retournent le stigmate en instrument de conquête du pouvoir symbolique, en instrument de révolte aussi contre un ordre symbolique français qui les nie, qui les discrimine, qui les minore, comme vous le disiez tout à l'heure. Je peux le comprendre. Mais alors, écoutez, je pense dans ce cas-là que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un malentendu profond, parce que évidemment vous savez très bien que ce sont deux phénomènes qui se renforcent l'un l'autre, c'est-à-dire que plus les voiles couvrent le territoire, plus les islamophobes se déchaînent, et c'est ça qui me rend le plus triste et malade dans cette histoire, c'est que c'est la première fois historiquement dans ce pays que l'extrême droite, pour ne citer qu'elle, hein, parce qu'il y a des gens beaucoup plus présentables qui sont sur cette ligne-là, prétend défendre les femmes, la condition des femmes. Chaque fois que, historiquement, l'extrême droite est intervenue dans l'espace public, c'était toujours généralement pour les renvoyer à la cuisine et au foyer. Voilà. Et là, maintenant, le Front National, toutes sortes d'intellectuels hyper réactionnaires, etc., se planquent derrière les femmes pour en réalité taper les musulmans autant qu'ils le peuvent, ce qui est un dévoiement absolu du combat féministe. C'est une chose, et ça je pense qu'on peut peut-être se mettre d'accord sur ce point, ce sont des logiques perverses qui nuisent à l'avenir de notre pays, qui rendent assez pessimistes sur son avenir. Et je pense qu'il faudrait d'une façon ou d'une autre arriver... à mettre dans les roues des bâtons dans les roues de ce processus infernal.
Laura.
Alors moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous renversez un peu le problème. C'est-à-dire que ce serait la visibilité du voile dans l'espace public qui finalement provoquerait un déferlement d'islamophobes et que finalement voilà, ça serait ça le problème. Moi, je lis le problème à l'envers. Il y a des mécanismes, il y a des systématiques qui visent aujourd'hui à invisibiliser les femmes musulmanes qui veulent s'exprimer et les femmes minorées en général. C'est de ces mécanismes que j'aimerais parler. On diabolise, on stigmatise, on parle à la place de ces femmes et finalement on les exclut de toute sphère, des sphères d'expression, des sphères d'expression, de visibilité, de décision. Moi, c'est ça que j'ai envie de pointer, c'est que finalement, ce n'est pas la visibilité du voile qui serait à mettre en cause, mais le contexte aujourd'hui de banalisation d'un discours islamophobe et sexiste envers les musulmanes. Je tiens à préciser que Mariam, avant d'être une femme qui porte le voile, elle est une femme. A-t-on entendu
des associations féministes qui ont condamné toutes les violences qu'a subies Mariam. Personne ne l'a fait. Parce que aujourd'hui, les femmes musulmanes ne rentrent pas dans cette case et que personne n'est là pour dénoncer cet acharnement dont elles sont l'objet.
Et du coup, est-ce que ça veut dire, Laura, que pour certaines femmes musulmanes, le fait de porter le voile, ça pourrait aussi être une façon de se rendre visible, de sortir de cette invisibilité dans laquelle alors le débat public autour de ces questions et de la place de l'islam, notamment dans la société française, les aurait plongés. Est-ce que ça peut être aussi une forme de voilà, une revendication politique de dire, bah voilà, on est là, on existe, et bah, regardez-nous, la preuve, voilà, on s'affiche comme musulmane.
Alors, j'aimerais, je profite de votre question pour parler un peu de la politique, justement. Parce que c'est assez nouveau. Maintenant, dès qu'on voit une femme musulmane qui prend un peu la parole, qui est un peu visible, on l'associe à la politique. Donc, elle serait forcément suspecte. Elle serait.
C'était
peut-être,
pas le sens de ma question. Hein.
Je sais, mais j'en profite. Tant qu'on me
d'accord.
donne la parole.
Bon. Mais alors, comment est-ce que vous répondez à ma question ? C'est-à-dire, alors, en quoi ça peut être, en tout cas, une forme de revendication, de visibilité, en tout cas, puisque vous dites, voilà, ces femmes-là, elles sont invisibilisées.
Oui, oui. Alors, moi, je vais continuer sur ce que je voulais dire.
Bon, d'accord. Bah, allez-y.
Donc voilà, cette histoire d'islam politique, c'est un mot fourre-tout, une association qui est quasi maintenant systématique. Concernant votre question, elles peuvent le faire. Moi, je dis toujours, laissez la parole au principal concerné.
Non, mais ce que je vous dis, en fait, j'essaie juste de suivre votre logique. C'est-à-dire, vous dites, en fait, la cause et l'effet, je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est le fait qu'il y ait de l'islamophobie, qu'il y ait une crispation sur ce sujet, qui fait qu'il y a une invisibilisation des femmes musulmanes, c'est-à-dire qu'on les écoute pas. Or, est-ce que justement le fait de porter le voile et de montrer qu'on porte le voile, ça pourrait être une forme de réaction contre ce phénomène-là?
Mais je pense que vous prenez en fait.
Non, mais répondez-moi
choses...
si vous êtes pense... d'accord ou pas. C'est juste.
Non, parce que je ne perçois pas les choses de cette manière. Là, il n'est pas question de savoir si c'est une revendication pour se visibiliser. Le processus d'invisibilisation, il est systématique, il est structurel. Après.
Il y a bien des façons d'y répondre, justement, à ce processus.
Peut-être que c'est des façons d'y répondre. Laissons la parole aux concernés.
Bah, c'est justement pour la raison pour laquelle on vous a invité, hein, je vous rappelle, puisque vous êtes membre de cette association qui œuvre justement à rendre plus visibles les femmes musulmanes. Anastasia Colosimo, est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème quand même autour justement de l'islam aujourd'hui en France, qui est sans doute un problème spécifique par rapport aux autres religions, qui est que de demander à ceux qui... embrassent cette religion et le font parfois avec des signes visibles, de devoir toujours se justifier, expliquer pourquoi ils le font.
Alors, je pense que pour ça, il faut faire un peu d'histoire, c'est-à-dire revenir un peu à ce qu'était déjà la laïcité lorsqu'elle a été quand même créée comme système en 1905, et aussi à l'histoire de France, parce que là-dessus, l'arrivée de l'islam, en fait, arrive dans un pays où la seule religion contre laquelle l'État a eu se battre, mais par ailleurs la seule religion qui est connue, c'est le catholicisme. Une religion où il y a en fait une séparation extrêmement stricte entre la sphère privée et la sphère publique. Théologiquement, c'est d'ailleurs très fort, puisque l'invention du christianisme, c'est l'idée que ça va être la circoncision du cœur, qu'au contraire de l'obéissance à la loi, tout doit se passer dans l'intimité de la foi, etc. Et donc du coup, la laïcité, elle est inscrite dès son départ, en fait, dans le catholicisme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que le christianisme qui permet une séparation aussi stricte entre la sphère privée et la sphère publique. Et je pense qu'il y a une sorte de malentendu aujourd'hui, chez beaucoup même de politiciens, qui disent « Mais attendez, il faut que la religion ne soit que dans la sphère privée ». Or, typiquement, dans le cas de l'islam, la séparation entre sphère publique et sphère privée, théologiquement, elle est beaucoup moins claire, parce que...
Il n'y a pas que dans le cas de l'islam, d'ailleurs.
Dans le cas du judaïsme aussi, c'est tout à fait vrai, puisque l'obéissance à la loi, par les signes extérieurs, fait qu'il n'y a pas du tout... Il y a une grande porosité entre l'espace public et l'espace privé, et en fait, la religion s'éprouve et se prouve dans l'espace public. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'arrivée de l'islam, pour le judaïsme, disons que c'est très différent, parce que le fait que les juifs ont vécu quand même en diaspora des milliers d'années, a fait qu'ils se sont adaptés généralement très différemment aux législations en place. Mais
avec l'arrivée de l'islam, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de malentendu, à mon avis, extrêmement fort, qui est qu'il y a tout le temps des politiciens qui disent mais retournez dans la sphère privée, et des musulmans qui disent mais attendez, mais nous, sphère privée, sphère publique, c'est pas, ça recouvre pas exactement nos conceptions religieuses. Et le voile, c'est un très bon témoin de ça, parce qu'effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens pour une femme musulmane de porter le voile chez elle, mais de l'enlever quand elle va, par exemple, au travail, ou de l'enlever. Parce que, au contraire, le fait qu'elle porte le voile, ça marque aussi sa foi quelque part. C'est ça l'obéissance à la loi religieuse, au sens fort. Et donc, je pense que, à travers ce malentendu, qui est un malentendu, à mon avis, très fort, il y a eu des crispations qui sont des crispations qui sont pour le coup très mauvaises. Je pense pas qu'il faut qu'il y ait de rupture de dialogue. Au contraire, moi je pense que il faut que le dialogue soit soutenu. Il faut que effectivement les femmes musulmanes puissent expliquer aussi ce que ça veut dire. Vous savez,
mais pourquoi c'est devenu un malentendu des personnes aussi, qui disent, aussi fort
Il y a très souvent, par exemple des personnes qui disent, mais je vois pas quel est le problème. Elle pourrait quand même enlever son voile. Bah non, en fait. La réalité c'est que elle ne peut pas enlever son voile parce que c'est une conception complètement différente. Donc ça demande un effort d'imagination aussi, et ça demande un effort aussi de se dire que la religion revient. Il y a eu un retour du religieux, que maintenant il faut assumer ce retour du religieux qui ne concerne pas du tout seulement l'islam d'ailleurs, et que donc il ne s'agit pas du tout, à mon avis, que la laïcité s'adapte, parce que je pense que, encore une fois, moi je suis très du côté de l'universalisme républicain, parce que je pense que c'est ça le meilleur rempart en fait contre le racisme, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de discrimination, c'est l'universalisme républicain. Mais il s'agit aussi d'entendre que la religion prend des formes différentes des conceptions que nous avons, nous, du religieux.
Au-delà de ça.
Alors là, moi, je suis pas d'accord avec vous, Anastasia, parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire, si je résume à grands traits, c'est que le christianisme, lui, est compatible avec la laïcité, hein, du point de vue de la pensée
par rapport au catholicisme.
La
laïcité, non, ça non, existe non, dans non. un pays qui, en fait,
vous
est catholique.
Vous permettez que je termine?
Non, non, mais juste, je corrige, parce que vous n'avez pas du tout...
Non, si j'ai très bien compris, vous parlez de circoncision du cœur, et donc le christianisme, intrinsèquement, ne serait pas dans l'ostentation publique, et donc serait compatible...
C'est la religion qui invente la séparation entre sphère privée et sphère publique, en fait.
Et donc serait... Je vais essayer de terminer. Et donc serait compatible avec la laïcité, contrairement à l'islam. C'est exactement ce que vous venez de dire, pardonnez-moi. Donc là,
mais ça veut dire aussi que le judaïsme doit s'adapter aussi. Mais c'est tout est un travail d'adaptation toujours.
Je peux terminer, juste, je termine.
Avec plaisir.
Voilà. Et donc moi, ce que je crois, et donc d'une certaine façon, vous êtes en train de constituer l'islam lui-même comme un problème au-delà du voile, parce que
non,
si
vous le retour du religieux,
si vraiment l'islam est incompatible avec la laïcité,
j'ai jamais dit ça.
Si vraiment l'islam est difficilement,
j'ai dit qu'il y a un malentendu,
difficilement compatible avec la laïcité, c'est qu'il y a un vrai problème.
Mais moi, j'ai un travail à faire.
Historiquement, c'est évidemment
compliqué. Il y a un travail à faire d'adaptation.
Quelle passion, hein. Historiquement, c'est complètement faux, puisque comme tous les textes religieux, l'islam est plastique. De la même façon que le catholicisme, il a produit Saint François d'Assise et l'Inquisition, il a produit les prêtres ouvriers. Et la manif pour tous, et tout ça n'a strictement rien à voir. Et bien de la même façon, en Iran, dans les années 70, vous aviez des femmes en mini-jupe. Et pourtant, certaines d'entre elles étaient tout à fait croyantes. Donc,
alors ça, il faudra leur demander quand même.
Oui, parce que je ne sais pas quelle conception vous faites de la foi.
En Iran, avant la révolution, oui. Je veux bien qu'on en parle. Oui,
oui bien sûr, mais vous croyez que tout ça a surgi de nulle part. Donc évidemment que l'islam lui-même, comme tout courant spirituel et plastique, et il n'y a aucune raison qu'il soit structurellement incompatible avec le vivre ensemble.
On est presque au terme de l'émission, et si vous le voulez bien, on va laisser Laura conclure. Ça serait quoi le message, vous, que vous aimeriez adresser et que vous essayez justement d'adresser à travers l'association, donc je rappelle, hein, l'association LALAB dont vous faites partie.
Alors, moi déjà, je voudrais revenir sur vraiment le message principal que je voulais faire passer. Prenons en compte les conséquences qu'ont ces débats systématiques qui reviennent autour des femmes musulmanes. Les femmes musulmanes sont aujourd'hui au carrefour de multiples oppressions. Elles subissent des discriminations dans chaque sphère de leur société. On reçoit des témoignages à la LALAB récurrents de formes très graves de violences que subissent aujourd'hui les femmes musulmanes. Et je pense que le débat doit se concentrer sur ça. Finalement, on regarde au mauvais endroit. Si on aspire à une société unifiée, on ne peut pas continuer dans ce climat parce qu'on continue à exclure, on continue à propager des stéréotypes, à stigmatiser, à diaboliser des femmes. Et finalement, moi j'aimerais que
plus de féministes s'expriment aujourd'hui sur ces sujets, parce que les femmes musulmanes sont aussi des femmes, subissent le sexisme, et je déplore finalement le silence en fait de toutes ces associations.
Et ben voilà, vous les aurez interpellés ce soir, ça sera peut-être l'objet de prochaines émissions. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous Laura, je rappelle, hein, vous souhaitiez uniquement vous exprimer sous votre prénom. Merci à Aude Lancelin et merci à Anastasia Colosimo.
Toujours un petit peu. Je serai plus disciplinée.
C'est ce que vous me dites à chaque fois et puis vous ne tenez jamais vos engagements. Merci à toute l'équipe du Grain. Antoine Dulster, Fanny Richer, Antoine Tricot, Isolde Sicard et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jean-Benoît Tétu, Cédric Chatelus et Nicolas Depagraphe. Dans quelques minutes, vous allez retrouver Arnaud Laporte pour la dispute, n'est-ce pas Arnaud ?
Absolument, Hervé Garnet, dans 3 minutes et 30 secondes environ, nous parlerons de cinéma ce soir, de L'homme qui tua Don Quichotte, Le ciel étoilé au-dessus de ma tête et Frontières. Et dans Politique demain midi, Hervé Garnet encore là.
Demain, oui, ce sera une émission dans le cadre des rendez-vous de l'histoire du monde arabe à l'Institut du monde arabe, rendez-vous organisé, co-organisé avec France Culture, et on va s'intéresser aux politiques arabes de la France, et on le fera avec la géopolitologue Dorothée Schmitt, à midi donc, demain. Et
d'ailleurs, rendez-vous dès 20h30 avec Marie Richeux, qui sera tout à l'heure en direct de Lima également. 19h, vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Mathieu Laurent.